Chers sœurs et frères, quel plaisir d'être ici parmi vous. C'est une joie et un privilège pour moi d'être ici dans cette chaleureuse assemblée de l'Éternel. Mes chers sœurs et frères, j'ai des salutations pour vous de l'Espagne, de la Suisse, enfin du Portugal. C'est un voyage un petit peu... Il y a des gens qui pas beaucoup, mais des gens qui répondent à nos prédications sur l'Internet. Et ça porte du fruit. On est allé visiter plusieurs familles en Espagne. Et je crois qu'on a au moins 3 baptêmes à la fête des tabernacles, ce qui nous fait très heureux de voir que la parole de l'Éternel ne retourne pas vide. Même si c'est très peu de gens, c'est à lui de prendre cette décision. Comme le Christ a dit, personne ne peut venir à moi si mon Père ne l'appelle pas ou ne le ramène pas. Donc nous avons confiance en Dieu et nous continuons d'obéir l'ordonnance ou le commandement de Jésus-Christ. Allez prêcher à toutes les nations. Et voici, je serai avec vous jusqu'à la fin de l'ère. C'est du monde, mais vous savez qu'on peut le traduire plus clairement. Ce qu'il a voulu dire, ce n'est pas la fin du monde, mais la fin d'une ère. L'ère du gouvernement humain sur la terre. Et puis, nous voici presque à la fin de cette période. Nous continuons d'obéir ce commandement. Que c'est dommage qu'il y en a qui croient que l'œuvre a déjà été faite, mais il faut continuer parce que Dieu, il continue à appeler des personnes. On a les témoignages évidents partout dans le monde, même s'il n'y a pas de grand nombre, il y a toujours des gens qui continuent à être appelés et à devenir des enfants des dieux engendrés par le pouvoir de son esprit. Donc nous voici encore avec un voyage de plus en Europe, et très heureux d'être ici, comme je vous l'ai dit, parmi vous. Ce que je voulais vous parler aujourd'hui, mes chers sœurs et frères, on doit donner la nourriture au peuple des dieux en sa saison. Dans quelle saison nous trouvons-nous? J'aimerais vous lire, si vous voulez vous reporter, au chapitre 25 de l'évangile de Matthieu. Nous allons voir qu'il y a des indications là de la part de notre Maître, notre Seigneur Jésus-Christ, au chapitre 25, verset 45 de l'évangile de Matthieu. 25, et puis chapitre... M'excusez, moi je cherche d'abord l'écriture dans ma Bible espagnole. Je connais bien où sont les écritures, puis après je me rapporte ici dans la Bible en français. Donc, je vous ai dit, chapitre, c'est 24, excusez-moi, 24 et verset 45 de l'évangile de Matthieu. Alors, on lit là, c'est que l'Éternel nous commande, j'arrive même pas à voir les petits nombres là, ces versets sont dans. Quel est donc verset 45? Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Il y a d'autres versions qui disent « en la saison convenable ». Heureux du serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Donc, moi, je jouis maintenant de l'hospitalité chaleureuse de M. Ellis et de son épouse dans leur maison, et puis ils sont en train de récolter, de faire la moisson du blé, juste en ces jours-ci, hier soir. Ils ont travaillé jusqu'à très tard le soir, et avec la machine qui fait la moisson. Donc on est dans un temps de moisson, la dernière partie de la moisson du blé. Vous savez bien qu'au moins dans la Terre Sainte, d'habitude, peut-être ça mûrit un peu plus tôt qu'ici, et on a présenté le premier fruit du blé il y a quelques semaines, pas beaucoup de semaines, à la fête de la Pentecôte. Donc, ce que je voulais vous parler, mes chers sœurs et frères, c'est que Dieu a établi et a caché secrètement dans les récoltes physiques un plan merveilleux. Il y a beaucoup de façons de l'étudier. Je crois qu'on l'a déjà fait avant, mais aujourd'hui, nous allons voir un aspect spécial. Je ne prétends pas épuiser la profondeur de la parole de Dieu. Il y a toujours, comme dit le chapitre 4 de l'Épître aux Hébreux, la parole de Dieu est vivante. Donc, on peut toujours puiser de nouveaux enseignements, de l'encouragement et de la vision pour vivre chaque jour comme il faut en ayant les yeux fixes en Jésus-Christ. J'aimerais que vous reportiez, s'il vous plaît, mes chers sœurs et frères. Nous allons voir que Dieu avait quelque chose en tête, en son esprit, le Verbe est Dieu, l'Éternel, avant même le commencement de la création de l'univers. Je crois que vous comprenez bien, je ne veux pas m'attarder là trop, que le temps n'existait pas avant l'existence de la matière. La parole de Dieu nous dit, surtout dans les Ésaïe, que Dieu habite l'éternité. Et parfois, il y a des traductions qui ne sont pas très exactes, mais il faut comparer plusieurs pour avoir un sens plus clair du message. Et dans la version Louis II, un petit peu différent, mais j'en ai vérifié dans plusieurs versions que Dieu, je ne veux pas lire cette écriture, se trouve dans Ésaïe, habite l'éternité. Donc, il a ce nom, il l'appelle l'Éternel. Dans la Bible, un nom désigne exactement l'essence d'un être. Et on sait aussi, et c'est des études très intéressantes à faire, que celui qui est le Père aujourd'hui, qui est Dieu dans l'Évangile de Jean, on dit « Au commencement était la parole, et était la parole au commencement ». Ça veut dire que la parole n'a pas eu de commencement. Si au commencement elle était, d'après le verbe imparfait, en français, malheureusement ça n'existe pas en anglais. En anglais il faut l'expliquer d'une autre façon parce qu'il y a le passé simple et l'imparfait sont identiques dans la langue anglaise. En français, en espagnol, puis les langues qui dérivent du grec et du latin, il y a une claire différence entre un passé simple et un passé imparfait. Ça veut dire que, au début, au commencement, comme l'apôtre, si vous voulez vous reporter là-bas, au chapitre 1 de l'évangile de Jean, on voit exactement ce qu'il dit. Il dit « au commencement était ». Ça veut dire que il était avant le commencement, et ça vous pouvez le vérifier dans le chapitre 7 des Hébreux, que Melchizedek, que nous comprenons, que n'est un autre que Jésus-Christ, puisqu'il était le sacrificateur, dit Dieu très haut. C'est la première mention qu'on fait dans la Genèse, au chapitre 14, si vous voulez. C'est quelque chose d'intéressant. C'est la première fois qu'on fait une référence entre celui qui est devenu le Fils des dieux, Jésus-Christ et le Père. Vous le voyez dans le chapitre 14 de la Genèse que Melchizedek était le sacrificateur du Dieu très haut. Vous le voyez tous les deux là. Et puis de Melchizedek, il dit qu'il n'avait pas ni père, ni mère, ni commencement de jour, ni fin de vie. Ça veut dire que celui qui est devenu Jésus-Christ, il est aussi éternel comme celui qui est aujourd'hui son Père. Je ne veux pas m'attarder trop, mais je suis sûr que vous avez des concepts très clairs là-dessus. Ce que j'aimerais montrer, c'est que, avant la création de l'univers, ils ont conçu un plan où celui qui est Dieu deviendrait le père d'une famille. Donc Dieu a inventé les concepts de famille bien avant la création de l'être humain. Il avait conçu déjà le concept qu'il allait devenir père, et que le Verbe allait devenir son fils avant même la création du monde. On peut le montrer clairement, si vous vous reportez, à l'épître de Tite, chapitre 1, s'il vous plaît, mes chers sœurs et frères. Il dit ici, chapitre, épître à Tite, chapitre 1, Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Sans piété, sans obéissance à Dieu, on ne peut pas vraiment comprendre la vérité. Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise avant tous les siècles. Il y a notre version qui dit clairement promise avant le commencement des siècles. Vous savez que le temps, on peut le mesurer, par exemple, dans notre système planétaire, quand la Terre tourne sur son axe, c'est un jour, vous le savez bien. Quand la Lune fait le tour complet autour de la Terre, c'est un mois. Quand la Terre tourne autour du Soleil, un tour complet, c'est une année. Et c'est comme ça que le temps a commencé. Dieu a créé le temps et a créé l'espace en même temps. Mais avant que ça n'existe, lui qui habite dans l'éternité, il a conçu les plans de donner la vie éternelle. Ça veut dire de se partager lui-même, de devenir un père qui allait avoir des enfants, qui allait avoir une famille. Et c'est merveilleux de pouvoir comprendre ça. Nous, qu'on vit ici, dans ce monde, on peut se remonter à ce que Dieu pensait avant la création même de l'univers. C'est quelque chose d'absolument magnifique de savoir qu'il voulait être un père et que le Verbe allait être le premier-né parmi ceux qui sont morts, qui d'ailleurs, et il est décrit comme ça, si vous voulez regarder, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1 et verset 5. Chapitre 1, verset 5, en parlant de Jésus-Christ, Apocalypse, chapitre 1, verset 5, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés, voilà. Ils avaient planifié ça avant la création même de l'homme. Il fallait qu'il y ait un rédempteur, mais aussi il fallait qu'il y ait un père. Donc, notre père et notre rédempteur ont planifié cette famille qu'ils voulaient créer et plus précisément engendrer. Parce qu'une question, c'est d'être créé comme des anges. Une autre question, c'est d'être engendré par la sémence de la vie éternelle du Père. Nous le voyons donc au chapitre 1, verset 5, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés, bien sûr par l'intermédiaire de Jésus-Christ, par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Je pense à le verset précédent, Apocalypse, je veux le chercher ici, mes chers frères, patientez avec moi, et on va le trouver tout de suite. Chapitre 1, verset 5. Les versets parfois changent dans les versions. Jean, lisons à partir du verset 4, voir si je trouve cette écriture qui est très importante. À Jean, aux églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts. Voilà, le premier-né des morts et les princes des rois de la terre. Donc, nous allons voir que le premier-né des morts a un rapport avec les récoltes et nous allons voir ces parallèles merveilleux que le Christ est représenté par la première récolte de l'année. Donc, Dieu a caché son plan, qui n'était pas connu même des anges, nous pouvons le démontrer, si vous le reportez avec moi, au livre des Éphésiens, à l'épître aux Éphésiens, vous allez voir que même pas les anges savaient ce que Dieu avait en son esprit le plan merveilleux d'avoir une famille, de se reproduire lui-même, lui-même par sa semence éternelle. Et au chapitre 5, et au chapitre, excusez-moi, chapitre 3, lisons le verset 8 de l'Épître aux Éphésiens. Chapitre 3, verset 8 de l'Épître aux Éphésiens. Lisons ensemble les paroles de Dieu ici. Verset 8. Lisons à partir du verset 7. Dont j'ai été fait ministre selon le don de dont j'ai été fait ministre selon les dons de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère. L'apôtre Paul prêchait un mystère qui avait été caché, d'après la parole qui suit là, le mot, de connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu. Donc Dieu, le Père et le Fils, le Verbe Dieu avait conçu un plan de se reproduire eux-mêmes. La famille divine, comme M. Armstrong l'a bien expliqué, et qui était caché de toute éternité. Et Paul dit qu'il a eu ce privilège de mettre en lumière les moyens de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu, qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations, écoutez bien ça, les dominations, les autorités, ce sont des catégories angéliques, ce sont des anges. Vous savez que les anges sont des serviteurs de ceux qui vont hériter le salut, nous autres. Dieu a créé les anges comme serviteurs, d'après l'Épître aux Hébreux. Je ne peux pas aller dans toutes ces écritures, mais ce sont des choses que vous devez connaître, n'est-ce pas? Et le Christ, quand il parlait à ses disciples, vers la fin de la dernière Pâque, il a dit, vous êtes mes amis, parce que je vous ai révélé les choses que mon Père m'a dit, parce que le serviteur, je ne vous appelle plus de serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Ici, nous allons voir la preuve qu'il y avait un mystère caché en Dieu que le serviteur, c'est-à-dire les anges, ne connaissaient pas. Et puis, il commence à dire, c'est pourquoi les dominations, ce sont des catégories angéliques que vous voyez quand même en Colossiens, chapitre 1, verset 16, où Dieu a créé les anges, les différentes catégories angéliques, toujours par l'intermédiaire du Verbe de Jésus-Christ. Mais continuons. C'est pourquoi les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église. Monsieur Armstrong expliquait qu'il y a trois genres d'esprits. Il y a l'esprit des dieux, qui est le Père a, qu'il transmet à ceux qui vont être ses enfants. Quand tu as la repentance, quand tu as le baptême et qu'on impose les mains, la personne est engendrée par la semence de la vie éternelle que le Père lui donne. Donc, ici, l'apôtre Paul nous montre, et dans l'Église, dans l'Épître aux Hébreux, il n'y a aucun des anges, il n'a jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré ». Ils ont été créés des êtres spirituels. Et ici, il dit « C'est pourquoi les dominations ». Les autorités, souvenez-vous qu'il est en train de parler d'un secret, d'un mystère qui était caché dès toute éternité. Et ce qui est merveilleux, c'est pour que nous apprécions ce que Dieu nous montre par l'intermédiaire de son Église. C'est pourquoi les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée des dieux. Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, et nous allons voir ça confirmé, de voir que les anges, par la prédication, parce qu'il y a l'esprit des dieux, il y a l'esprit angélique, c'est un esprit créé par Dieu, il y a l'esprit dans l'homme, que vous savez bien que l'apôtre Paul en parle, l'homme normal, M. Antron a beaucoup expliqué ça, a un esprit en lui qui n'est pas l'esprit des dieux, mais c'est l'esprit humain qui lui donne une intelligence supérieure à toutes les autres créatures. Mais cet esprit par lui-même que toute personne a, souvenez-vous que Moïse et Aaron, parfois ils priaient « Ô Dieu des esprits de toute chair ». Et Salomon a dit, quand un être humain meurt, le corps ou la poussière retourne à la poussière et l'esprit retourne à Dieu. Donc, même si ce n'est pas un esprit qui a été engendré par le Père, quand même il retourne à Dieu parce qu'il en garde pour la résurrection, pour ressusciter tous les êtres humains qui n'ont jamais vécu. C'est grâce à cet esprit où toute la connaissance, toute l'expérience acquise par cette personne est concentrée là. Aujourd'hui, nous, avec les ordinateurs, on comprend avec toute l'information qu'on peut mettre dans un disque d'un ordinateur, les software et les hardware, n'est-ce pas? Dieu met tout là. Si vous sortez toute cette information d'un ordinateur, c'est comme si vous sortiez l'esprit d'un être humain qui retourne à Dieu. Et l'ordinateur, il ne sait plus rien, n'est-ce pas? C'est comme le corps qui retourne à la terre. Maintenant, on le comprend un peu mieux. Mais quand Dieu va ressusciter les êtres humains, ils utilisent cet esprit avec toute l'information et ils le mettent dans un corps de chair qu'il va reconstruire ou qu'il va recréer. C'est pourquoi la reine du Sud, elle va se rappeler qui elle était. Elle va accuser les gens de la génération de Jésus-Christ en leur disant « Alors, vous aviez celui qui est assis dans le trône blanc, et vous ne lui avez pas cru, et moi je suis venu défendre la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et puis à ceux de Ninive, ils vont ressusciter. Comment vont-ils se rappeler qui ils étaient? Parce que Dieu leur a retourné l'esprit. C'est comme l'ordinateur, on a sorti toute l'information, puis on la remet, et puis l'ordinateur revient avec son information. Par lui-même, le disque ne peut pas fonctionner, il lui faut un corps. C'est intéressant d'observer ces choses, que les inventions humaines, avec une mentalité semblable à celle des dieux, inventent de plus en plus. Maintenant, il paraît que l'invention des robots a été tellement perfectionnée que ça peut éliminer les emplois pour beaucoup des gens sur la Terre. Donc, les êtres humains, sans la direction divine, peuvent aller dans des extrêmes dangereux. Donc, on continue ici. Donc, c'est par la prédication de l'Église que les catégories angéliques comprennent ce que Dieu avait caché de toute éternité. Et nous, on peut le voir confirmé avec l'épître de l'apôtre Pierre au chapitre 1 et verset 10. Premier épître de l'apôtre Pierre, nous allons voir ça, chapitre 1 et verset 10. Premier épître. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée. La grâce d'être de la famille divine, d'être de la même essence que notre Père au ciel et Jésus-Christ. Autrement, il ne serait pas l'aîné parmi plusieurs, une multitude de frères. C'est parce que le même qui a engendré Jésus-Christ est le même qui nous a engendrés à nous. Nous sommes bien sûr des petits frères, mais on est des enfants du même Père. C'est merveilleux, c'est un mystère qui était caché. Et puis, voilà comme l'apôtre Pierre confirme ce que je viens de vous lire dans l'Épître aux Ephésiens. Chapitre 1, verset 10, « Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée. » C'est grâce à savoir qu'on va avoir la vie éternelle et qu'on sera la famille divine pour toute une éternité. Et puis nous tous, on s'approche de ce moment, bien, soit parce que notre vie s'approche de sa fin, si nous persévérons jusqu'à la fin, ou que nous allons être debout et être des témoins de l'apparition du Christ dans les nuées, quand il viendra chercher son Église pour la conduire devant le Père pour les noces de l'agneau. Donc, c'est des perspectives merveilleuses qu'on ne doit jamais... Il faut toujours garder dans l'esprit pour ne pas perdre de vue notre appel et ne pas nous décourager dans ce monde turbulent dont on a fait mention dans les annonces. Donc, chapitre 1, verset 10 de la première épître de Pierre, « Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche. Voilà, ils voulaient savoir. Et, comme vous savez, l'apôtre Paul dit que lui, il a été en charge de la révéler aux païens, à ceux que Dieu a appelés pour faire part de l'Israël des dieux. Par l'Esprit des dieux, ils deviennent l'Israël des dieux. Le salut, l'objet de leur recherche, les prophètes, ils recherchaient, et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Donc ils avaient l'Esprit, mais ces choses n'avaient pas encore été révélées jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, quand il a donc donné l'autorisation pour commencer à révéler ce mystère, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant, ceux qui vous ont prêché l'Évangile, la bonne nouvelle. Quelle est notre destinée? Je viens d'entendre, c'était en Suisse, le suicide d'une dame qui était vraiment l'incarnation du succès. Elle était championne de sgrim, elle s'appelait Isabelle, je ne sais pas que, mais elle était bien connue dans la télévision française en Suisse. Elle était championne de sgrim, elle était une newscaster, je ne sais pas comment on dit ça, elle annonçait à la télévision, elle était très populaire, elle était journaliste, elle avait un mari qui l'aimait, elle avait deux filles qui l'aimaient, mais peut-être elle s'est poussée trop en essayant d'obtenir la gloire qui ne dure pas. Elle s'est épuisée, les docteurs lui ont donné comme diagnose ou diagnostic « burn out ». C'est-à-dire, ses énergies étaient brûlées. Elle est tombée dans une dépression profonde parce qu'elle a tout mis à la recherche de cette gloire passagère. Et moi, je ne la critique pas. Je le dis avec beaucoup de respect parce que la Bible quand même dit, il faut faire les choses d'après nos forces. Mais peut-être elle s'est poussée trop et n'arrivait pas à se remettre de cette dépression. Et il y a dimanche dernier, il y a deux semaines, il s'en va à la station et puis elle attend le train de Nyon. Elle a sauté juste avant, elle s'est tuée de cette manière. Elle a secoué, n'est-ce pas, tous les gens étaient très émus. Elle n'a pas compris comme nous, chers sœurs et frères, pourquoi on est là? Pourquoi on doit s'efforcer vraiment? Quel est notre but? Quelle est la raison par laquelle nous avons été appelés par Dieu? Il prépare les princes et les rois du royaume des dieux. C'est pourquoi il y en a si peu qui sont appelés. Les gens ne comprennent pas le plan de Dieu. Il est en train de former des sacrificateurs et des rois. Le peuple qui va être gouverné et administré par ces gens-là, il n'est pas encore appelé. C'est les premiers fruits que Dieu est en train d'appeler et de préparer pour que nous devenions, avec le Christ, des rois et des sacrificateurs pour être prêts à administrer le salut, la prédication, la guérison aux millions qui vont venir pendant le millénium que Dieu va appeler. Mais il aura tout en place. Il aura toutes les structures du gouvernement parfaites en place pour secourir ces gens. Ce que le gouvernement du monde aujourd'hui ne font pas, mes amis. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Et c'est intéressant, les gens qui ne comprennent pas, que nous comprenons ce que Dieu est en train de faire, ils disent, mais pourquoi il y a si peu de gens dans vos églises? Comment ça se fait qu'il y en a si peu? Nous, on comprend Dieu. Vous savez, pour régir un peuple, il ne faut pas beaucoup de rois. Hein? Il faut un roi ou il faut... Donc, Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Et il est en train de nous préparer, nous autres. Nous devons lutter contre le diable qui est encore en liberté, qui essaye de nous tenter continuellement par son pouvoir, la puissance de l'air. Nous devons lutter contre l'environnement d'une société qui était influencée tout au long de son histoire par ce pouvoir. Et nous devons lutter contre les tendances qui sont en nos corps, n'est-ce pas, qui veulent nous mener captives à la loi du péché. Nous allons voir ça dans un moment. Je me suis attardé un peu ici dans ce, je vais finir ce que l'apôtre Pierre dit, et que pour nous plonger un peu plus dans les leçons que nous pouvons apprendre des récoltes que l'Éternel a établies sur la terre et qu'il a caché son plan derrière ces récoltes. Nous allons voir ça, vous le comprenez, je sais, par les fêtes des dieux, mais c'est intéressant de le comprendre un peu plus en détail. Donc, je reviens à ce que on lisait avec l'apôtre Pierre, excusez-moi, chapitre 1, verset 10, j'étais parti un peu, une digression là. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Quel est le salut? Le salut est quand on est libéré de ce corps de chair et Dieu nous donne un corps glorieux, semblable à sa propre gloire. Quand un père a un enfant, moi j'ai un enfant, il me ressemble, et il est plus beau que moi, mais les gens disent, oui, il est juste comme vous, on dit, oh, c'est un compliment, mais il est le plus beau que son père, n'est-ce pas? Donc, je vous lis là tout à l'heure cette écriture, ce qui est merveilleux. Si on est engendré, c'est qu'on va comprendre un peu plus, si Dieu nous permet le temps. Si M. Rhys Ellis ne m'arrête pas trop vite, j'ai la tendance à parler trop, comme vous le savez. Et Dieu a un plan absolument merveilleux. Et si un père engendre un enfant, quand cet enfant est né, il a un corps qui ressemble à celui de son père. Donc le mystère des dieux est assez évident. Il est dans les familles. Mais il y a un voile qui nous empêche de le voir avec clarté. Mais répétons ce que l'apôtre Pierre nous dit ici pour que vous voyez que même pas les anges savaient ce que Dieu avait en tête quand il a créé l'univers, quand il les a créés les anges et quand il nous a créés à nous les êtres humains. Donc je continue, je répète encore, excusez-moi mes amis, au verset... Verset 10, 1, 10, je les ai lus avant, mais c'est merveilleux, on va le relire, je ne veux pas interrompre maintenant. Et les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, c'est-à-dire pour nous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, qui vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile, la bonne nouvelle. Quelle est notre destinée? Cette dame suisse qui avait une belle famille, elle ne comprenait pas notre destinée. Elle s'est épuisée à avoir cette gloire. Elle avait une popularité extraordinaire. Elle voulait la conserver. Elle n'a pas réussi. Elle s'est épuisée. Nous devons bien comprendre quelle est notre destinée. Et n'est pas tombé dans le désespoir si on garde ce rapport avec l'Éternel. Comme le Christ dit, venez à moi. Si vous êtes chargé des difficultés ou des dépressions, quoi que ce soit, je vous guérirai. Et nous avons cette foi et nous avons ce recours. L'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Vous voyez là confirmé, Éphésiens. Et chez l'apôtre Pierre, les anges sont des serviteurs et ils comprennent maintenant ce que Dieu est en train de faire avec nous. Il nous les révèle par le Saint-Esprit des dieux, l'Esprit du Père qui s'unit à notre esprit. Donc c'est quelque chose de merveilleux. Donc comment est-ce que ces mystères étaient cachés? Où est-ce qu'ils étaient cachés? Vous vous souvenez que M. Armstrong... quand il est venu dans la vérité et que Dieu a utilisé, s'est servi de son épouse pour lui montrer que c'était le sabbat qu'il fallait garder. Une fois qu'il a commencé à garder le sabbat, il a compris qu'il fallait garder les fêtes. Il a commencé à garder les fêtes sans savoir pourquoi il fallait les garder, mais il savait que Dieu l'avait commandé et qu'il fallait les garder, même si on ne comprenait pas. par l'obéissance. C'est grâce à ça, à son obéissance, qu'il a compris quel est le destin de l'être humain caché dans les fêtes. Nous allons voir dans quel ordre. Le destin, c'est la vie éternelle, comme je l'ai lu tout au début, dans l'épître à Tite, que Dieu a promis la vie éternelle avant le commencement des siècles. Mais il allait donner cette vie éternelle en plusieurs étapes. Nous allons voir que ces étapes étaient cachées dans les fêtes des dieux. C'est pourquoi Dieu, il dit qu'il y avait trois saisons de fêtes. En total, nous savons, ce sont sept fêtes. Mais pourquoi, par exemple, la fête de pain sans levain? Pourquoi la fête de la Pentecôte? Pourquoi la fête des tabernacles? Vous savez, on va étudier tout à l'heure dans la Bible, il faut chercher, n'est-ce pas? Un petit peu ici, un petit peu là. Nous allons voir que la première récolte était du temps de la Pâque et des pains sans levain, et que ça correspondait à l'orge. Et dans ce pays, je crois que c'est le même ordre qu'en Terre Sainte. Donc Dieu, il avait conçu ça avant de créer le monde. Il voulait, il a caché ce mystère. Il fallait se réjouir dans les fêtes, bien sûr, parce qu'il avait la récolte, on avait le pain pour survivre, on avait la bénédiction des dieux, et puis il fallait lui rendre grâce en lui présentant le premier fruit de la récolte. Mais derrière tout ça, il y avait un mystère caché. La deuxième récolte, c'est celle du blé. Nous allons le démontrer. On a déjà étudié ça ici avec vous, mais c'est intéressant de revoir ces choses, parce que Dieu avait caché ce mystère dans ses fêtes et dans les récoltes. Là, vous savez, la première fête inclut la Pâque et les pains sans levain. C'était l'époque de l'orge. Nous allons le démontrer. La deuxième était la récolte du blé, dont les premiers épis mûrissent 7 semaines après que celles de l'orge ont mûri. 7 semaines après. Donc, c'est pourquoi ça s'appelle la fête des semaines. Donc, c'est une autre étape du plan de Dieu. Et puis, la troisième étape, c'est la saison des fruits de l'été, qui inclut les figues, les grenades, les olives pour l'huile, les raisins pour le vin, hein, principalement. Il y avait bien d'autres fruits d'été, mais ce sont ceux qu'on mentionne le plus dans la Bible. Alors Dieu a caché un plan dans des étapes différentes. Un plan pour donner cette vie éternelle qu'il avait promise avant de créer l'univers. Il l'a caché dans ses fêtes. Nous allons le voir. Par exemple, nous allons démontrer maintenant, si vous voulez venir avec moi, que l'orge était la toute première des récoltes. Enfin, pour vous ou ceux, mais on est tellement détaché de la terre de nos jours qu'on a perdu un peu cette connaissance du rythme ou de l'ordre des récoltes que Dieu a établi. Bien sûr, en Terre Sainte, mais dans ces latitudes, elles sont semblables, quoiqu'il y a peut-être quelques différences à cause des températures et des saisons. Donc, nous allons voir, par exemple, comment dans la Bible, là où on ne pense, on a de l'information, parce que quand Dieu nous parle de la fête des pains sans levain et de la fête de la Pâque, il ne mentionne pas l'orge. Mais c'est important de savoir. Et d'abord, avant d'aller dans l'Exode, je veux vous lire, et je vous prie de vous reporter à l'épître, la première épître aux Corinthiens, où l'apôtre Paul parle des différentes étapes où Dieu va donner le salut ou la vie éternelle à l'être humain. Reportez-vous, s'il vous plaît, et nous allons voir le parallèle magnifique dans les récoltes. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15 et verset 22. Il dit, lisons à partir du verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. On a lu dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1 et verset 4, qu'il était le premier-né des morts. Voyez, il y a une concordance merveilleuse de ces concepts. Voici ce qu'il dit. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il parle de résurrection. Il est les prémices de ceux qui sont morts. chapitre 1, verset 4, vous pouvez le mettre là, le premier-né des morts. C'est-à-dire, comme on a toujours, l'Église a toujours enseigné, la nouvelle naissance arrive quand on ressuscite à une vie éternelle, avec un corps spirituel. Un corps spirituel. C'est la nouvelle naissance qui ressemble à celui qui l'a engendré, Dieu le Père et Jésus-Christ lui-même. D'ailleurs, j'ai oublié de vous lire dans les derniers versets de Philippiens. Vous voulez vous reporter au chapitre 3 de Philippiens, s'il vous plaît, et puis ne perdez pas l'écriture que je vais vous donner en Corinthiens. Au chapitre 3, verset 30 de Philippiens. Lisons ça pour le faire encore plus évident, le salut que Dieu a pour nous. Verset 20, chapitre 3 de Philippiens. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation. Humilité vient de terre, humus. Vous savez, là où la terre est riche, on dit il y a beaucoup de humus. C'est-à-dire, quand on est humble, on se rend compte qu'on n'est que de la poussière, comme Dieu l'a déclaré à Adam. Alors, qui transformera les corps de notre humiliation. On a un corps qui est destiné à mourir, n'est-ce pas? À se décomposer, en les rendant, écoutez ça, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses. C'est absolument merveilleux ce que Dieu est en train de faire. Il nous engendre avec son esprit comme un père. Et puis, quand on ressuscite, comme le Christ qui est le premier-né des morts, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui viendront après. Quand il y a un premier-né, il faut qu'il y en ait d'autres. Nous serons aussi nés des morts, mais avec un corps semblable à celui de sa gloire. Comment cela est possible? Je vais vous lire une écriture là qui peut offenser des gens qui ne sont pas habitués à ça, mais nous savons que toutes choses viennent de Dieu. Et vous, peut-être, vous la connaissez. Dans la première épître de Jean, je vous prie de vous reporter au chapitre 3 de la première épître de Jean. Verset 9. Premier épître de Jean, chapitre 3, et verset 9, pour avoir une vision un peu plus claire que vous connaissez sans doute, chers sœurs et frères, mais qu'il est bon de revoir ces choses. Premier épître de Jean, chapitre 3, et verset 9. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu. Souvenez-vous, on dit les enfants de Dieu, les enfants du diable. Et les enfants du diable, quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Parfois les versets changent dans les versions, vous m'excusez mes chers sœurs et frères. Ah voilà, verset 9, quiconque est né de Dieu. Là, je crois que vous comprenez, je crois que je parle à des gens qui connaissent les Écritures, que le mot « né » ici, et le mot grec genao, c'est G-E-N-N-A-O, qui on peut le traduire comme engendré et comme né. C'est que le traducteur ne comprenne pas le contexte. Nous, on le comprend. Je ne peux pas m'attarder à vous faire une étude, mais en grec, c'est intéressant, et en hébreu, on utilise le même verbe quand un enfant est engendré dans les seins, quand la mère conçoit l'enfant, ce que le père fait, c'est d'engendrer, c'est genao, quand il commence à exister dans les seins de sa mère. Vous le voyez, et c'est une preuve, au chapitre, je ne vais pas y aller, mais c'est important de connaître ça. Dans le premier chapitre de Matthieu, verset 18, il décrit la naissance du Christ. Et quand il parle de que l'ange, il dit que, ici dans cette version, il dit que Marie a conçu, mais aussi il vaut bien regarder, je ne veux pas m'attarder là maintenant, ça ferait toute une étude nécessaire, mais il faut comprendre Le verbe genao est employé pour montrer que le Christ a été engendré par le Saint-Esprit. L'ange dit ça à Joseph. Et là, c'est évident, genao, il commence à exister comme le verbe incarné dans les seins de sa mère. Et quand il est né, on emploie le même verbe. Genao, il est né de sa mère. Quand vous voyez le verbe naître, donc ça peut bien être engendré, mais nous, on comprend par les contextes. Ici, par exemple, chers sœurs et frères, et quand je vous lisais chapitre 3 de l'épître de Jean et verset 9, on sait bien qu'il ne s'agit pas de quelqu'un qui est né de nouveau, c'est ce que veut dire irrésurrection. C'est pourquoi le Christ est le premier né des morts, parce que c'est le premier qui est ressuscité avec un corps spirituel, comme la gloire qu'il avait avec le Père avant que le monde n'existât. Donc, ici au chapitre 3, verset 9 de Jean, il dit « quiconque est né ». Le mot là, c'est « genao », vous pouvez vérifier ça. Et ça doit être traduit « quiconque est engendré ». Quiconque est engendré de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence, vous savez, le mot semence, cherchez-le dans une concordance, c'est le sperma des dieux. Et ça, c'est fort, chers frères. Ça peut scandaliser des gens. Mais comment ça se fait? Cherchez-le. Quand il dit la semence des dieux demeure en lui, c'est-à-dire celui qui lui a transmis cette vie, que s'il a la persévérance jusqu'à la fin, il sera né de nouveau, genao, avec un esprit, avec un corps d'une gloire semblable à celle du Père qui l'a engendré et à celle du Père qui a engendré Jésus-Christ, notre frère aîné. Il est notre aîné, mais il a été engendré par ce même esprit. C'est pourquoi il est le premier-né parmi beaucoup de frères. C'est merveilleux de voir comme l'Écriture, elle s'accorde partout dans ses concepts. Donc, le mot qui est là, il dit, c'est le sperma de Dieu demeure en lui. Ça veut dire, quand on a l'esprit en nous, on comprend ce que l'Écriture nous dit souvent. Mais n'attristez pas l'esprit de Dieu. Si ce corps a été purifié par le sang du Christ, par son sacrifice, le mot berit en hébreu veut dire alliance ou pacte. Pour que nous puissions être la demeure du Saint-Esprit et qu'il puisse se développer en nous et qu'il puisse développer en nous le caractère du Père qui nous a engendrés, il a fallu que notre corps soit purifié. Et là, on entre dans une alliance avec Dieu d'obéir ses commandements. Et quand nous, on commence à pratiquer le péché, à répéter des erreurs comme ça, ou même, si ce n'est qu'une fois, l'esprit s'attriste. Parce qu'il y a quelque chose qui appartient à Dieu lui-même, qui nous dit, faut pas aller dans ce chemin-là. Ça a coûté le sang du Christ. Vous savez, le privilège d'avoir la présence du Père en vous. Nous avons la présence des dieux en nous. Le Christ a dit, ceux qui croient à mes paroles et qui les gardent, le Père et moi, nous viendrons à lui et nous ferons demeure en lui. Comment ils le font? Par l'intermédiaire du Saint-Esprit du Père, nous devions les temples de l'Esprit de Dieu. Il vivait dans l'ancienne alliance avec le peuple. Dans la nouvelle alliance, il vit dans le peuple. Il vit en nous, dans une intimité profonde qu'on doit respecter, chers sœurs et frères. Et c'est pourquoi l'Esprit s'attriste quand nous voulons ou quand nous tombons dans le péché. Et c'est pourquoi il faut se repentir immédiatement, demander pardon et continuer dans cette voie étroite. Quiconque commence à pratiquer le péché, il y a un moment où l'esprit ne le supporte plus. Il sort de cette personne et pour que cette personne soit sauvée, il faudrait que le Christ meure de nouveau. Et l'apôtre Paul dit, c'est impossible. Dieu ne donnera plus le repentir à une personne qui a abusé de cette manière. Le privilège d'avoir été engendré par le Père et d'avoir qu'il mette sa semence éternelle en nous pour nous donner un corps spirituel semblable au sien. Donc c'est très important de revoir ces choses. Donc voilà la semence de Dieu. Il avait un secret. Une semence, quand on la plante, ça produit des fruits. Donc, le Christ a dit qu'il fallait que la semence meure pour qu'elle puisse naître de nouveau. Donc, vous voyez, tout s'accorde merveilleusement. Et c'est pourquoi Dieu a choisi l'orge, qui est la toute première des récoltes, pour représenter son Fils. Mais nous allons voir quelques leçons qu'on peut apprendre là-dessus, qui sont merveilleuses, qui nous enseignent que Dieu veut que nous développions son caractère. Donc, nous allons voir d'abord l'ordre des récoltes comme une révision pour que vous les ayez en vos esprits, chers sœurs et frères. Par exemple, une indication, l'une des premières, je crois la première qu'on trouve, c'est dans le chapitre 9 de l'Exode. Donc, je vous pose la question. Quand les enfants d'Israël étaient en Égypte, c'était quel mois? Vous le savez bien. C'était le printemps. C'était le mois de Nissan ou le mois d'Abib. Ils ont gardé la Pâque. Ils ont quitté l'Égypte le premier jour des pains sans levain. Donc, on sait bien dans quelle saison Dieu a envoyé les plaies en Égypte. Donc, c'est important d'avoir ce contexte dans nos esprits pour vérifier comment Dieu il nous montre. Chapitre 9, verset 31. Donc, il faut chercher les Écritures pour trouver des choses merveilleuses. Chapitre 9, verset 21 du livre de l'Exode. 9, verset 21. Le voilà. 30. Mais ceux qui ne prirent point leur cœur à parole. L'Éternel, c'est l'Éternel, oui. Tiens, le verset change. Je m'excuse, mes amis. Mais pas de problème. On va trouver de toute façon. Non, c'est que je me suis trompé. Voilà. Chapitre 31. Verset 31. Chapitre 9, verset 31. Le lin et l'orge avaient été frappés. Il parle ici de la plaie de la grêle. Vous vous souvenez que les récoltes d'Égypte ont été détruites. Donc, Dieu nous montre ici pourquoi l'orge a été détruite. Le lin, je répète, c'est Exode 9, 31. Le lin et l'orge avaient été frappés parce que l'orge était en épi et que c'était la floraison du lin. Le froment, qui est l'équivalent du blé, et l'épeautre n'avaient point été frappés parce qu'ils sont tardifs. Donc, le blé vient après les orges. Alors, l'orge a été détruit par la grêle en Égypte parce qu'il était déjà en épi. Ça veut dire... Et puis, nous allons voir quelques autres preuves. Par exemple, attendez-moi, le livre de Ruth nous donne des indications assez claires de l'ordre des récoltes. Le livre de Ruth... Vous le trouvez bien sûr à la fin du livre des Juges, avant le livre de Samuel. Et puis, nous allons voir, vous lisez au chapitre 1 et verset 22 du livre de Ruth. Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Ils arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Au commencement de la moisson des orges. Donc, qu'elle mûrissait déjà. Et puis, si vous regardez le chapitre suivant, au verset 23, ça veut dire, chapitre 2, verset 23, en parlant de Ruth, elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment. Donc, on les met les deux en ordre. L'une vient, et puis vient l'autre. Et elle demeurait avec sa belle-mère. Et nous voyons un troisième témoin dans les Écritures pour éclaircir clairement l'ordre des récoltes. C'est l'ordre dans lequel Dieu a caché le mystère de son salut. Il est important de le comprendre Nous allons voir pourquoi. Si vous voulez vous reporter au deuxième livre de Samuel, chapitre 21 et verset 7. Deuxième livre de Samuel, chapitre 21 et verset 7. Là, ce même jour, un homme... Ah, c'est 1 Samuel. 2 Samuel, chapitre 21 et verset 7. Voilà. 21 et verset 7. Le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'avait fait entre eux. Devant l'Éternel, David et Jonathan, fils de Saül. Mais le roi prit les deux fils de Rispa et d'Aïja, qui avaient enfanté à Saül, Harmoni et Méphibosheth. Puis, continuons. Ça, c'est pas important pour le but de cette écriture. Je m'excuse de ma mauvaise lecture. Et puis, il dit, « Et les cinq fils de Merab, fille de Saül, avaient enfanté à Adriel de Mehola, fils de Barzillai. Il les livra entre les mains des Gabaonites, qui les pendirent sur la montagne devant l'Éternel. Tous les sept périrent ensemble. Ils furent mis à mort dans les premiers jours de la moisson. Les premiers jours de la moisson, au commencement de la moisson des orges. » Donc, c'est établi par trois témoins dans les Écritures. Vous l'avez vu dans l'Exode, vous l'avez vu dans le livre de Ruth, trois fois et quatre fois ici, la première récolte, la première masse moisson est celle des orges. Alors, pourquoi il est important de le comprendre? Nous allons voir encore, premier épître aux Corinthiens, s'il vous plaît, chapitre 15, et verset, quoi que c'est, je vais le confirmer pour vous, premier épître des Corinthiens, chapitre 15, et verset, commence au verset 20, premier épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Donc, il parle d'un terme agricole, les prémices. Donc, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Donc, il parle du salut qui vient par la résurrection. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Il parle de résurrection. Mais chacun en son rang. Vous lisez d'autres versions, dit chacun en son ordre. Donc, Christ comme prémisse. Prémisse de quoi? De la première récolte, l'orge. La première qui sort de la terre, le Christ est le premier qui est sorti de la terre. L'analogie est parfaite. Quand les orges se sont mûries, vous savez que le prêtre, il fallait qu'il les coupe à la fin du sabbat hebdomadaire. Ça, c'est une autre étude que vous devez faire pour avoir toutes ces choses. Le Christ n'est pas venu abolir la loi. Il est venu pour l'accomplir. Le suprême sacrificateur coupait les prémices de l'orge pendant, à la fin du sabbat hebdomadaire, pendant la fête de la Pâque des pains sans levain, et le lendemain, il les offrait devant Dieu. C'est pourquoi quand le Christ est ressuscité à la fin du sabbat, quand il est sorti du tombeau, c'est l'heure exacte où le suprême sacrificateur coupait les prémices de l'orge. Il est venu accomplir ce qui avait été caché dans les récoltes, dans les moissons. Et le lendemain, quand Marie-Madeleine a voulu le toucher, il lui a dit, me touche pas, je ne suis pas monté chez mon père encore. Il attendait que le prêtre, le lendemain, quand il avait coupé cette gerbe d'orge, le lendemain, il devait la présenter devant Dieu et la tourner du sud au nord, de l'est à l'ouest, en montrant que le sacrifice de Christ est fait pour la rédemption de toute l'humanité. D'abord les prémices, mais on va voir dans quel ordre. Donc, tout était caché là. Et nous, nous avons maintenant, Dieu a relevé le mystère. Nous pouvons le voir. Et c'est intéressant quand le Christ, quand le suprême sacrificateur a coupé cette gerbe, elle n'était plus en contact avec la terre. C'est-à-dire, c'est comme une espèce d'indication, il était un être spirituel. Il ne dépendait plus de la terre. Il est le premier qui est né des morts, qui a été transformé et que Dieu lui a donné le corps de la gloire qu'il avait avec lui avant que le monde n'existât. Donc, le lendemain, peut-être à la troisième heure, je ne sais pas, le suprême sacrificateur levait ses prémices de l'apôtre Paul mentionne ici, devant Dieu. Et le Christ est monté à son Père. Et je crois. Essayez d'imaginer, après les tortures et les souffrances que le Christ a endurées pour nous, et pour faire triompher le plan qui s'était proposé avant la création de l'univers. Et puis l'accomplissement dans l'esprit arrive. Ce qui avait été fait pendant des siècles et qui était caché derrière. Il se présente au Père. Peut-être qu'il lui a dit, Père, la mission a été accomplie. Notre plan va triompher. Tout ce qui est caché derrière ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc, l'apôtre Paul, comme nous l'avons écrit, il dit Christ les prémices. Et nous voyons, il l'a accompli même à l'heure exacte où les premiers épis ont été coupés. Et à l'heure exacte où le suprême sacrificateur les a présentés le lendemain devant Dieu. Il l'a accompli. Il n'est pas venu pour abolir la loi. C'est très important de comprendre ça. Il y a toujours un accomplissement. Si on ne comprend pas pourquoi cette loi, pourquoi cette loi, il faut demander à Dieu, comme disait David, ouvre mes yeux, que je vois les merveilles de ta loi. Il y a toujours quelque chose qu'on peut découvrir. Je ne vous montre qu'un petit aspect des choses merveilleuses que Dieu a cachées dans sa création. Alors il dit, et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Et vous pouvez mettre là, si vous voulez, en son ordre. Christ comme prémisse. Il était les prémices de l'orge, la toute première récolte. Et on l'a coupé exactement à l'heure où il est sorti du tombeau à la fin du sabbat hebdomadaire. Il s'est écrit dans les commentaires juifs, le suprême sacrificateur avait une faucille, il attendait que quelqu'un lui crie de la colline en lui disant « Le soleil s'est couché ». Alors, parce qu'autrement il ne pouvait pas travailler, tout de suite le soleil se couche, c'est la fin du sabbat, et il coupe. Et le Christ sort du tombeau. C'est merveilleux. Avec un corps spirituel semblable au nôtre. On ne sera pas de la même lumière resplendeur. Vous savez, quand il est transfiguré sur le mont, son visage a brillé comme le soleil. Et quand il a expliqué une des paraboles au chapitre 13 de Matthieu, il a dit « Les justes resplendiront comme le soleil dans les royaumes de leur Père. » Bon, on continue. Chacun en son rang, chacun à son ordre. Parfois, on lit ça tellement vite qu'on ne se rend pas compte de tout ce qui est derrière. Le plus grand mystère de l'univers était caché là derrière. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse. Puis ceux qui appartiennent au Christ. Je vous ai montré que le blé ou le froment était la deuxième récolte. Elle est en train d'arriver maintenant. J'étais témoin hier. On récoltait le blé là derrière la maison de M. et Mme Ellis. Et puis, regardons dans la Bible comment Dieu nous dit oui, mais il faut le chercher. Ça se trouve au chapitre 34 de l'Exode. Vous allez voir, mes amis, au chapitre 34, Dieu montre cette deuxième récolte. Chapitre 34 de l'Exode. Toujours, il faut vérifier les choses dans la parole de Dieu. Au chapitre 34 de l'Exode, vous reportez, s'il vous plaît, chers sœurs et frères, je vais vous dire là, au verset 22. Chapitre 34, verset 22. Et le voilà, la parole de Dieu s'interprète d'elle-même. Chapitre 30, 33 de l'Exode, verset 22. Tu célébreras la fête des semailles, des semaines. Pourquoi semaines? Combien de semaines y a-t-il entre le moment où la première gerbe de l'orge mûrit et le premier gerbe du blé mûrisse? 7 semaines. Tu célébreras la fête des semaines, des prémices. Nous sommes appelés les prémices des dieux dans plusieurs endroits, comme le chapitre, et je veux finir de lire ça, puis on va voir qui sont les prémices des dieux. De la moisson du froment, ça veut dire du blé, et la fête de la récolte à la fin de l'année. Voilà les 3 récoltes. Le Christ les promesses, la première, nous, on est les prémices de la deuxième, qui est la Pentecôte, c'est quand le blé mûrit, 7 semaines après. Alors, lisons ce que l'apôtre Paul dit. Et après, il dit, c'est la récolte à la fin de l'année, ce sont les fruits de l'été, et vous le connaissez bien, quand on récolte le fruit, comme les pommes, les figues, les grenades, et puis le raisin et les olives pour le vin et pour l'huile. C'est la troisième étape du plan des dieux qui aura lieu après le retour du Christ. La deuxième est en train d'arriver maintenant avec nous ici. Et Dieu nous donne cette vision pour que nous persévérions jusqu'à la fin. Donc, et revenons, s'il vous plaît. Bon, c'est clair donc, je viens vérifier, il n'y a pas d'autre verset ici que je dois lire. Tu seras la fête des semaines, les prémices de la moisson du blé ou du froment, et la fête de la récolte à la fin de l'année. Ces récoltes, c'est les fruits de l'été. D'ailleurs, si vous voulez vérifier ça aussi, reportez-vous au chapitre 40 de Jérémie, et vous voyez qu'il parle des fruits de l'été, qui est une troisième récolte. Et c'est en cet ordre que Dieu va donner le salut à l'humanité. Et c'est pourquoi aucune religion qui ne garde pas les fêtes de Dieu peut comprendre qu'il y a un ordre établi qui suit les récoltes en terre sainte. Et qui est absolument clair. Donc, au chapitre 40 de Jérémie, nous voyons qu'au verset 10, on fait mention des fruits de l'été qui sont différents. L'orge est différent du blé, et les fruits de l'été, comme les raisins et comme les olives, sont différents du blé. Ce sont 3 récoltes différentes, 3 étapes du salut des dieux qui étaient cachées dans ces récoltes et qui correspondent aux fêtes de l'Éternel. N'est-ce pas? La paix, la Pâque et les pains sans levain. C'est à cette époque-là qu'on récolte le premier fruit de l'orge. Après la fête de la Pentecôte, nous allons voir un peu plus en détail des choses qui sont cachées derrière ces fêtes, encore des leçons pour nous. Donc au chapitre 40, verset 10 de Jérémie, nous allons voir par la Bible elle-même quelles sont ces récoltes. La troisième récolte, chapitre... Vous savez que le temple a été détruit au mois d'août le 10 du mois de Ab. Le premier temple, le deuxième temple a été détruit la même date, au mois d'août. Et peut-être le troisième sera détruit aussi, ou bien les sacrifices seront interrompus peut-être au mois d'août. Ce sera l'abomination de la désolation. 40, verset 10. 40, verset 10, je trouve là, les versets sont tout petits ici, mes amis. Mes yeux sont pas si jeunes. Voici, je reste à Mispa pour être présent devant les Chaldéens qui viendront vers vous. Et vous faites la récolte du vin. Vous venez, le temple venait d'être détruit par les Chaldéens. Il parle de la récolte du vin et on sait la date de la destruction du temple, c'était le mois d'août. La récolte du vin, des fruits d'été et de l'huile. Mettez-les dans vos vases et demeurez dans vos villes que vous occupez. Puis une petite note à la fin du verset 12 qui confirme ça. Et il dit, et tous les Juifs revinrent de tous les lieux où ils étaient dispersés. Ils se rendirent dans le pays de Juda vers Gedalia à Mispa, et ils firent une abondante récolte de vin et de fruits d'été. Voilà la grande multitude. D'abord, c'est le Christ, après ceux qui appartiennent au Christ, et après vient la troisième récolte. Voilà le plan de Dieu représenté dans les récoltes. Par exemple, nous, on en fait mention, vous le savez bien, dans le chapitre 14 de l'Apocalypse. On parle au chapitre 14, verset 4. Et puis il y en a bien d'autres, bien sûr. Ce sont des études un peu prolongées. Je ne peux pas m'attarder dans tous les aspects. Je vous donne de chapitre 14 et verset 4. Il dit... je ne trouve pas le verset 4, mes amis... C'est les 44 000. Et personne, je lis ici, je m'approche là, personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Souvenez-vous que le Christ, il revient, et puis ceux qui lui appartiennent sont levés dans les airs pour retrouver le Christ en son retour. Il va nous présenter comme suprême sacrificateur devant le Père. Comme le suprême sacrificateur a présenté les prémices, le Christ, les prémices, il les a présentées devant Dieu physiquement. Le Christ va accomplir la présentation des premiers fruits comme suprême sacrificateur, comme sauveur devant le Père. Et les noces de l'agneau auront lieu. Donc il y a une question très importante qu'on va répondre tout de suite. Verset 4, 14, verset 4 de l'Apocalypse. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Vous savez que quand quelqu'un devient un membre de l'Église, il est, vous pouvez vérifier ça dans la première épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul dit, vous êtes lavés, vous êtes purifiés, vous, n'est-ce pas, tout le passé, Dieu le nettoie. Et puis dans la deuxième épître, au chapitre 11 de la deuxième épître aux Corinthiens, il dit, en parlant des gens qui avaient été même des homosexuels, des adultères, des fornicateurs, il leur dit, je vous zèle avec le zèle des dieux, parce que je veux vous présenter devant le Christ comme une vierge. Et c'était des gens qui avaient, donc il ne parle pas d'une virginité physique ici, c'est expliqué par la Bible elle-même. Comparez la première épître aux Corinthiens, où l'apôtre Paul parle des gens qui avaient été des adultères, des efféminés, des voleurs. Il dit, vous avez été lavés, vous avez été purifiés. Donc ça veut dire que les gens à Corinthe n'étaient pas vierges physiquement, beaucoup d'entre eux. Et dans la deuxième épître, au chapitre 11, il leur dit, je vous zèle parce que je veux vous présenter comme une vierge pure devant le Christ. Ces conclusions, il faut toujours les tirer de la Bible, pas de nos imaginations. C'est comme ça les gens errent. Ils s'imaginent, oh, ça doit être quelque chose. Il faut, et j'ai essayé de le faire en toute bonne foi devant vous. Toute affirmation que j'ai faite, je trouvais quelque part là pour vous confirmer que c'est ce que Dieu dit dans sa parole. C'est notre rôle, pas de prêcher nos propres idées, mais de les montrer dans la parole de Dieu. Et ici, il parle, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, c'est-à-dire ils sont persévérés jusqu'à la fin, dans la purification que le Christ leur a fait, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu. Comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans la bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irréprochables. Ce sont des vainqueurs qui ont réussi à vaincre tout l'état de tendance de leur chair avec l'Esprit de Dieu. Maintenant, nous allons voir quelques exemples qui vont nous aider. Qu'est-ce qu'on peut apprendre des orges? Je ne prétends pas épuiser le sujet, mais de vous montrer quelque chose de très intéressant. On a démontré, avec 4 exemples, souvenez-vous, le livre de l'Exode, les orges, c'est la première récolte, représente le Christ en son rang, les prémices de l'orge. On l'a vu dans les livres de Ruth 2 fois, ça fait 3, et dans les livres 2e de Samuel 4 fois, le début des moissons était la moisson des orges. Et le Christ est le début, il est les prémices de toute récolte, de tout premier, le premier des prémices. Donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'orge? Qu'est-ce que le Christ est venu nous enseigner? Quel genre de caractère? Maintenant, tout ce que je vous ai mentionné, simplement comme une introduction, on a justement fait l'introduction. Hein. Alors, monsieur Ellis sourit là, et puis je n'ai fait que l'introduction. On va commencer maintenant la deuxième partie du sermon. Donc, préparez-vous, mes amis. Respirez profondément. Et on va continuer, on n'a pas le temps de faire une pause parce qu'il y en a qui vont prendre le train, je crois. Je ne veux pas que vous soyez tard à la maison à cause de moi. Donc, je vais essayer de le faire le plus vite possible. Quelle est la première leçon qu'on peut... L'une, ce n'est pas la première. Pourquoi le Christ a choisi les orges? Pourquoi le blé n'était pas la première des récoltes et puis les orges la deuxième? Il y a une raison que la Bible nous dit. Reportez-vous au chapitre de l'Apocalypse, chapitre 6. Apocalypse, chapitre 6 et verset 6. Apocalypse, chapitre 6 et verset 6. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait: une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Qu'est-ce que vous voyez là? Les orges, l'orge est 3 fois meilleur marché que le blé. Qu'est-ce que le Christ a dit? D'abord, lisons au chapitre 11 de Matthieu, c'est que le Christ disait de lui-même. Chapitre 11, verset 28 de Matthieu. Matthieu, chapitre 11, et verset 28. Voici les paroles du Christ pour nous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Voilà ce que cette dame qui était très capable, cette dame suisse, qui il y a 2 semaines s'est tuée avec le désespoir de sa dépression. Si elle avait lu et croit et cru en ses paroles, elle serait encore vivante. Et peut-être sa vie aurait changé pour le meilleur. Mais elle va de toute façon ressusciter, ce qui est merveilleux de la connaissance que nous avons. Donc, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et ça, on en a dans cette vie, mes amis, dans cette époque. Si le Le 20e siècle était le siècle de l'estrès. Le 21e siècle, le siècle de la dépression, du désespoir. Prenez mon joug sur vous. Ça, je peux vous... C'est une autre chose. Cherchez dans la Bible qu'est-ce que le joug signifie. Vous pouvez demander aux gens, qu'est-ce que le joug ? Et vous allez entendre 5 ou 6 réponses différentes. Le joug est la loi de Dieu. Vous pouvez le vérifier dans le chapitre 5, verset 5 de Jérémie. Les jugements et la justice des dieux qu'il mentionne là, il dit, ils ont rompu le joug. C'est-à-dire, ils ont brisé la loi de Dieu. Et puis, dans le chapitre 119, on parle souvent du chemin des dieux et des jugements. C'est une autre étude qui est intéressante de faire, que je vous suggère. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Vous savez que il y a une meilleure traduction, et je l'ai vérifiée, c'est pas que je vais changer Louis Segond, mais je vous donne des traductions que j'ai vérifiées dans plusieurs langues. Il dit pas la traduction, la meilleure traduction, c'est pas recevez mes instructions, c'est apprenez de moi. C'est plus éloquent, c'est plus profond. Apprenez de moi, ça veut dire je suis votre exemple vivant. Apprenez de moi, car je suis doux et humble. Doux et humble. L'orge était 3 fois meilleur marché que le blé. Le Christ s'est humilié jusqu'à l'extrême. Il veut que nous apprenions de lui. Il s'est fait représenter par la récolte la moins chère. Le blé était plus apprécié. Peut-être il a un meilleur goût. Apprenez de moi. Souvenez-vous, c'est mieux que recevez mes instructions. Vous pouvez le vérifier dans d'autres versions. Qui suis humble et doux de cœur. Voilà, il choisit l'orge, qui est moins cher que le blé qui nous représente à nous. Et s'est humilié beaucoup plus que nous. Nous pouvons nous humilier. Et il était Dieu. Et il n'a jamais péché. Donc nous n'avons aucun droit d'être vaniteux, je parle pour moi-même, je suis le premier. On a tout ça dans la chair, on va le voir tout de suite après. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Souvenez-vous que l'apôtre Jean dit dans sa première épître, chapitre 5, verset 3, que les commandements de Dieu ne sont pas lourds. Ils ne sont pas durs, ils ne sont pas... C'est exactement le même message. Mon joug est doux et mon fardeau léger. Bien sûr, c'est un joug, c'est un fardeau, mais il est doux, il est léger. Alors, lisons dans l'épître aux Philippiens, pour revoir un peu le panorama de ce que nous pouvons apprendre de ces récoltes, pas seulement le mystère des dieux qu'il avait caché, du salut, mais les leçons du caractère des dieux qu'il veut que nous apprenions. Il nous l'enseigne aussi par les récoltes, en nous montrant le caractère du Christ, tout d'abord par l'humilité. Et lui, il était Dieu, et toutes choses ont été faites par son intermédiaire. Toutes choses. Sans lui, rien n'a été fait. Chapitre 2 de Philippiens, verset 1. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour. Vous savez pourquoi l'Église des dieux est divisée aujourd'hui, mes amis? Lisez chapitre 13, verset 10 des Proverbes. La contention ne vient que par l'orgueil. On a encore de l'orgueil. Je ne veux pas signaler, je ne veux signaler personne. Tous, nous portons encore cette tendance. Ça produit de la division. C'est pourquoi on est divisé. Ça ne va pas durer pour toujours, mes amis. Dieu, il nous donne du temps. Mais le temps va venir où Dieu va dire, ça y est. C'est fini. Il faut choisir. vous vous repentez du fond du cœur, vous vous humiliez, vraiment, pour se repentir, il faut s'humilier. Parce que l'orgueil est une tromperie, c'est se croire ce qu'on n'est pas. Et le Christ n'avait jamais eu cette tromperie, il savait exactement qui il était Seigneur et Maître. Et ce n'était pas de la vanité, mais il a lavé les pieds de des apôtres. Il leur a dit, vous m'appelez Seigneur et Maître, et je le suis, vous avez raison. Mais si moi, votre Seigneur et votre Maître, vous a lavé les pieds, un acte d'humilité d'un servant, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Donc, il dit ici, une même âme, une même pensée. Pour ça, il faut l'humilité. Et le Christ va être sûr que son épouse, après la grande tribulation, aura été purifiée jusqu'au point où il n'y a que ces sentiments d'unité parfaite les uns avec les autres et avec le Christ le Père. Comme nous sommes aujourd'hui, mes amis, on n'est pas prêt pour le retour du Christ. On doit être purifié, on doit être préparé. Quelques-uns seront jugés dignes par Dieu. Nous, on ne peut pas se juger dignes. On ne sait pas d'aller dans le lieu de refuge. Il y a des gens qui ont une belle attitude, qui sont des gens paisibles, qui ont la maîtrise de soi, qui ne causent pas de perturbation. Il y a d'autres, bien sûr, et moi j'ai cette nature aussi. Je ne prétends pas être un exemple, frère, mais c'est important d'être conscient. Il y a d'autres qui vont être purifiés dans le feu de la tribulation, jusqu'à ce qu'il y ait un vrai repentir. Devant la mort, il faut faire un choix. Et Dieu donne le temps pour que ça arrive, pour qu'on ne soit plus dupes. De notre époque, le Christ est dit, toi tu dis, je suis riche, je n'ai besoin de rien. C'est ce que l'idée que nous avons quelques-uns entre nous et dont nous devons nous repentir, parce que c'est quoi? C'est ce que nous croyons. Donc, l'orgueil est une tromperie de soi-même, de se tromper soi-même. Mais le Christ, il décrit exactement comment il nous voit. Tu dis, tu es riche et tu n'as besoin de rien, mais tu es un pauvre, misérable, nu, aveugle. C'est comme ça que Dieu nous voit, parfois, quand nous croyons que nous sommes quelque chose. Donc il faut cette humilité pour que l'épouse du Christ soit prête à vivre en harmonie et en paix pour l'éternité. Dieu veut être sûr qu'il n'y aura pas un autre diable dans son royaume. Il nous teste à l'avance. Souvenez-vous, Lucifer, vous lisez l'histoire, il n'a pas été testé. Il n'a pas été mis à l'épreuve. On lui a tout donné dès le début. Il avait le pouvoir, il avait les richesses, il avait l'intelligence, il commandait un tiers des anges. Mais il n'a pas été prouvé avant, et il n'a pas persévéré. Vous voyez chez les êtres humains, Saül, le premier roi d'Israël, il était grand, il était beau, on lui a donné le royaume, mais il n'a pas été testé à l'avance. Soudainement, il se trouve roi, il n'a pas persévéré. Vous voyez Salomon, il a grandi dans les palais, tout était servi sur des plateaux peut-être d'or et d'argent, il avait tout, il était beau, il était intelligent, il a hérité le royaume le plus puissant du monde, mais il n'a pas été testé et il n'a pas persévéré. Vous voyez Joseph, le jeune homme à 17 ans, il est vendu par ses frères. Et Dieu lui a appris l'humilité, parce qu'il avait eu ses rêves, et peut-être ça lui avait monté un petit peu à la tête, je ne sais pas. C'est pas vrai. Je viens de commencer le sermon, mon ami. Je vais vous résumer le sermon, vous m'excusez là. Mais vous voyez les enseignements qu'il y a, et puis il était le premier ministre de la première puissance du monde, Joseph, et il a persévéré jusqu'à la fin. Vous voyez le roi David? Il a été loin avant qu'il n'ait 20 ans, parce qu'il ne pouvait pas encore aller à la guerre, mais il a été éprouvé. Et ce n'est qu'à 30 ans, comme Joseph, qu'il a reçu le royaume, et il a persévéré jusqu'à la fin. Eh bien, il a péché, mais il s'est repenti, et il a persévéré. Mais il a été mis à l'épreuve. Et Dieu fait la même chose avec nous. Il éprouve tous les cœurs. Il nous fait passer par l'eau et par le feu. Vous pouvez lire ça dans le psaume 66 ou le chapitre 17 des Proverbes. Donc, je n'ai fait que commencer le sermon, mais je vous dis une chose que ce qu'on doit encore apprendre. Je finis de lire ça. Le Christ existant en forme des dieux, verset 6 de Philippiens 2, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme, et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il s'est humilié encore plus que l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était un citoyen romain. Il n'est pas mort crucifié. On lui a coupé la tête. Le Christ n'est pas un citoyen romain, n'était pas. Il a été crucifié. Il a été humilié beaucoup plus que l'apôtre Paul. Il est venu nous donner un exemple d'humilité. Nous n'avons aucun droit, je vous dis pour moi-même. Je ne me considère pas une personne très humble, chers soeurs et frères, mais ça nous fait réfléchir. Il s'est humilié. Il s'est fait présenter par l'orge. Alors, je ne vais pas dans les Écritures parce que je n'ai pas le temps, mais qu'est-ce que nous pouvons apprendre de la Pentecôte? Comment ça se fait que le premier fruit de la Pentecôte, je sais que je parle à des gens qui connaissent la loi, donne-moi 3 minutes de grâce, mon ami, et ça y est. Et comment ça se fait que les prémices sont présentées avec du pain, avec le vin? Vous vous êtes posé la question. Comment ça se fait que les prémices sont présentées? Le Christ était présenté comme le premier fruit des orges. Il n'y avait pas de levain là-dedans. Et nous, le jour de la Pentecôte, on est présenté avec du levain devant Dieu. Et il y a même des gens dans l'Église qui croient que la résurrection va arriver le jour de la Pentecôte. Ils ont oublié quelque chose de très important. Et je vous le dis clairement. Tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit ce jour-là étaient des personnes physiques avec du sang et de la chair. Ils n'étaient pas un être spirituel comme le Christ quand il est ressuscité des morts et il a été présenté par le suprême sacrificateur et qu'il s'est présenté lui-même devant le Père. Nous, on reçoit le Saint-Esprit encore en étant des êtres humains, avec la chair, avec une loi dans nos membres, revenez-vous, au chapitre 7 de Romains, l'apôtre Paul dit, j'ai une loi dans mes membres qui veut me mener captive à la loi du péché. Donc, c'est que M. Armstrong a toujours expliqué, une chose est l'engendrement, et une autre chose est la nouvelle naissance. L'engendrement, c'est quand quelqu'un s'est repenti, il a été baptisé, il reçoit le Saint-Esprit, il est engendré par Dieu comme un enfant qui commence à exister dans les seins de sa mère. Mais il faut qu'il continue dans cette nouvelle voie qu'il a commencé avec le baptême et qu'il persévère jusqu'à la fin et qu'il soit un vainqueur de cette loi qui est en nos membres. Qui veut nous mener captifs à la loi du péché. Il faut qu'il endure jusqu'à la fin dans cette lutte. Et je vous assure, mes amis, que cette lutte ne va pas cesser jusqu'à ce que nous mourions ou que nous soyons ressuscités. Tant qu'on vit dans cette chair, on a une lutte jour après jour. C'est pourquoi le Christ il dit, si tu veux me suivre, dénie-toi toi-même, prends ta croix, fais mourir toutes ces tendances et suis-moi. Donc, voyons. Il y a des leçons du caractère des dieux, et puis je peux analyser les fruits de l'esprit et les œuvres de la chair, mais je vous laisse ça à vous, chers soeurs et frères. C'est une des leçons. Donc, l'engendrement, c'est quand on reçoit le Saint-Esprit, et la nouvelle essence pour ceux qui ont persévéré, qui ont été des vainqueurs, qui ont continué dans le schéma étroit, en obéissant les lois des dieux, dans l'esprit et dans la lettre, eux, ils seront nés de nouveau. Quand? Aux trompettes. Donc, la deuxième récolte commence, la signification, avec du pain, avec du levain, on est engendré, et ça s'accomplit quand on est ressuscité avec un corps spirituel. Il n'y a pas de levain. Quand le Christ va nous présenter devant le Père, on aura un corps glorieux, semblable à sa gloire. Il n'y aura pas de levain. on sera présenté devant le Père comme le Christ a été, s'est présenté lui-même, et puis que symboliquement, le suprême sacrificateur l'a présenté. J'avais encore à vous expliquer les leçons qu'on peut apprendre des fruits de l'été. Et je vous prie de les lire dans le chapitre 13 de Luc, quand il parle d'un figuier, il avait attendu trois années pour voir un fruit. Dieu nous donne son esprit, il met sa semence en nous, et il attend qu'il y ait une transformation de notre caractère. Il veut qu'il y ait du fruit. Quand les années passent, il n'y a pas de fruit, lisez la parabole du figuier, dont il a dit, ça fait 3 ans que j'attends du fruit, et je ne le vois pas, je vais le couper. Il a dit, non, je vais être remué autour de lui, on attend encore un peu pour voir s'il porte du fruit. Et puis, au chapitre 15 de Jean, il parle du fruit des raisins dont on fait le vin. Et il dit, quand on ne reste pas attaché à Dieu, et ça prend une discipline quotidienne, du jeûne, de la prière quotidienne, du jeûne fréquent, l'étude de la Bible, la méditation et la mise en pratique des choses qu'on apprend. Parce qu'on apprend beaucoup de choses, on ne les met pas en pratique, il vaudrait mieux ne pas les avoir apprises. Alors, voilà des leçons qu'on peut apprendre des récoltes. Pas seulement les plans de Dieu, mais les leçons du caractère de Dieu qu'il veut que nous développions en nous, parce qu'il a mis sa semence en nous. Il veut de fruits, il veut des résultats, et ça sera notre joie quand nous aurons obéi et nous serons efforcés de tout notre être avec l'aide de Dieu pour produire du fruit, et ça sera le comble de la joie. Que l'Éternel nous aide, chers soeurs et frères, vous m'excusez, mais j'aurais dû pas me prolonger si long, mais je viens pas ici souvent, donc je veux parler pour cette année et la prochaine.